enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Il y a un temps fixé. Et on apprendra aussi que la notion du temps de Dieu est très différente. On a vu tout à l'heure dans Actes des Apôtres que Jésus a dit, il dit, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit non. Il dit, ce n'est pas à vous de déterminer le temps que Dieu a fixé. Il y a un temps fixé. Alléluia. Des passages, par exemple, Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc Dieu prophétisait, qui dit Abraham, Sarah, ta femme aura un fils. Mais il y avait un temps qui était fixé. Alléluia. Il y avait un temps qui était fixé. Il a dit, Genèse 21, de Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Donc il y a un temps qui est fixé. Amen. Le temps, vous allez le sentir. J'expliquerai ça en détail la prochaine fois. Vous allez sentir quand le temps se déclenche. En fait, un temps pour chaque chose. Quand vous avez par exemple une entreprise, il y a un temps pour le commencement, il y a un temps pour embaucher, il y a un temps pour tout. Quand vous priez pour la prière du temps, vous allez voir que Dieu vous apprend à cadencer. Quand le temps n'est pas arrivé de faire quelque chose, vous n'avez pas la paix, vous ne le faites pas. Amen. Quand le temps n'est, vous sentez que le temps n'est pas arrivé, vous dites bon Seigneur, apprends-moi à faire ce que je dois faire, à me préparer jusqu'au temps fixé. Amen. Et il y a des manières, quand vous sentez que le temps est arrivé, normalement, il y a toujours des signes que Dieu vous donne pour vous approcher du temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps annuel. C'est un temps différent. Dieu est au-dessus du temps. Amen. Il y a un passage qui est très clair que j'aime beaucoup qui montre Habakkuk chapitre 2, verset 3. Alléluia. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais regardez, les gens, quand on lit le verset, on ne comprend pas, mais on lit pas bien la suite du verset. Je ne sais pas ça. Il dit, le temps de ta prophétie est fixé. Amen. Donc, quand tu sens que tu arrives vers le temps de cette prophétie, regarde ce qu'il dit. Il dit, elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais le Seigneur dit, le temps est fixé. Comment la prophétie peut tarder alors? Est-ce que vous voyez la contradiction? Si on dit, le temps est fixé, qu'on ne peut plus le bouger. Donc, on ne peut pas dire que ça peut tarder. Parce que ça ne peut arriver qu'en son temps. Le temps qui est fixé, les choses. Donc, je vais vous expliquer en fait que la notion du temps de Dieu, ce n'est pas la même que la nôtre. Elle est déclenchée par certaines choses. Alléluia. Alléluia. Le temps fixé de Dieu, c'est bizarre quoi. C'est comme si c'est fixé. C'est très souvent comme si ce n'est pas fixé par rapport au calendrier humain. Mais c'est fixé par rapport au calendrier céleste, au calendrier divin. Amen. Ce n'est pas fixé quelquefois dans notre calendrier. C'est-à-dire que par rapport à la date de notre calendrier, les choses peuvent... Il peut y avoir certaines évolutions. Mais par rapport au temps divin, c'est fixé. Il dit donc, si elle tarde, il dit le temps est déjà fixé. Le temps est fixé pour Dieu. Mais par rapport à toi, quand ce temps-là arrive, tu sens qu'elle arrive. Si ça tarde, amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, priez jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Mais le temps était déjà fixé. Et quand ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Quand le temps de votre faveur arrive, il faut pouvoir déclencher la faveur de Dieu. Mais vous devez le sentir. Quand votre temps arrive par rapport à une faveur, votre corps commence à brûler. Vous le feu comme... Oh, tu sens que quelque chose va sortir. C'est-à-dire, voilà, en fait, suivez le temps fixé là. Regardez. C'est un peu comme une femme qui va accoucher. On dit ça fait 9 mois. Même les scientifiques vont dire à peu près à la date. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la vérité. Amen. On sait que le temps est fixé, mais le temps n'est pas aussi fixé. Mais tu peux accoucher avant. Tu peux accoucher après la date. Après la date prévue. Vous voyez, non? Voilà. C'est toujours la notion d'enfantement d'un projet de Dieu. C'est un peu comme une grossesse qui va donner un enfant. Tu sais à peu près, quand la période va arriver, il y a des signes qui montrent que la période est proche. Alléluia. Et par rapport aux signes, tu as une certaine disposition. Tu prends une certaine disposition. Donc c'est pareil pour toutes les prophéties. Quand la prophétie vient, elle s'accompagne de certaines choses que vous devez ressentir avant le temps. Et quand vous commencez à ressentir que le moment est arrivé, de poser tel acte, vous devez commencer à enclencher les choses. Pour qu'effectivement, le temps de Dieu descende et que la faveur de Dieu bénisse votre commencement. Et en ce moment-là, on m'a dit, tu es béni à ton arrivée. Et quand tu as commencé, tu as reçu la bénédiction de Dieu. En dehors de ça, ton commencement va traîner en longueur. Et tu commences, tu as le qu'est-ce que tu lis jusqu'à tu vois que ça chauffe. Mais tu sais que c'est le plan de Dieu. Après, tu dis, non, je n'ai pas encore eu la stratégie du comment. Avant d'avoir ton comment, là, tu as essayé au moins 7 autres stratégies. Tout a échoué. Donc, tu prends encore 2 autres années pour trouver ton comment. Après avoir trouvé ton comment, tu as ouvert ta boîte dans tel endroit, ça a fermé. Dans tel endroit, ça a fermé. Tu dis, mais Dieu m'a dit qu'il allait me bénir. Je reprends encore. Et tu vas lutter jusqu'à ce que tu trouves le bon endroit. Tu as perdu déjà 4 ans. Tu vas payer encore. Pendant ce temps, tu n'as plus des employés. Ils viennent et te fatiguent. Détournement de fonds. Il y en a qui ont volé ton truc. Tu pries jusqu'à la fin. Maintenant, Dieu te délivre. Il t'envoie les bonnes personnes. 7 ans sont écoulés dans ton projet. Ta boîte, depuis là, ne marche pas bien. Et puis, tu vois, ça, c'est qu'un commencement, ça. Tu vois, voilà, c'est un commencement. On n'a pas dit que tu es béni à ton arrivée. Mais tu as une arrivée compliquée. Alléluia. Après, maintenant, tu vas encore durer. Et le temps que ta boîte, maintenant, ta structure démarre, 10 ans sont écoulés. Mais tu es tellement fatigué que tu n'as même plus envie d'aller à la fin. Donc, tu n'as pas été béni à ton arrivée. Tu ne seras pas béni à la fin parce que le temps que tu as fini de répondre à tes 5 questions, tu as fini toute ta force, toute ton énergie. Tout est parti. Toute ta foi, tu es découragé. Tu es découragé. Tu dis, mais les personnes, on ne comprend même pas. Les gens prophétisent sur nous, ils prophétisent sur nous. Il n'y a rien qui arrive ici. On a tous les problèmes. Et puis tu t'élèves contre l'église, tu es fâché avec les pasteurs. On n'a rien fait. Alléluia. Donc, n'oublie jamais les 5 questions. Tout ce que tu veux faire, tu as 5 questions à poser à Dieu. Prends le temps d'avoir toutes tes réponses et puis démarre avec le temps de Dieu. Alors, on va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Alléluia. On va invoquer Dieu, on va invoquer Dieu. On va prier, on va dire, ah Seigneur, merci parce que c'est toi qui te révèles à nous. C'est toi qui nous explique les choses cachées afin que, parce que tu veux que nous puissions réussir. La Bible dit que si quelqu'un met la parole de Dieu en pratique, il aura du succès. Il aura de la réussite dans tout ce qu'il entreprendra. Amen. Mais quelquefois nous nous posons la question, mais pourquoi on n'a pas de succès, pourquoi on n'a pas de réussite? Mais parce que simplement, nous n'écoutons pas attentivement la voix de Dieu. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Alors, élevons ensemble nos voix. Et ce que Dieu t'a dit pendant cet enseignement, tu vas prier en fonction de cela, afin que ces choses-là soient pratiques dans ta vie. Élevons nos voix, prions l'Éternel.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Seigneur Dieu des cieux, que ton nom soit béni. Je rends grâce à ton saint nom. Je te rends grâce parce que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver une fois de plus ce soir pour partager ta parole. Seigneur, remplis-moi de toi afin que, oh Dieu, je puisse expliquer vraiment les mystères, Seigneur Dieu, les mystères du royaume à tes serviteurs, à tes servantes, Père, et que ces choses-là soient pour eux des éléments fortifiants, Père éternel, oh Dieu, pour leur donner la force d'être des hommes et des femmes, d'être des vainqueurs en ton saint nom. Seigneur, je dispose aussi les cœurs afin de recevoir cette parole favorablement. À toi la gloire et l'élévation que c'est des siècles au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir nos Bibles donc dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Avant donc d'arriver à ce verset 6, recommençons depuis le verset 1 de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront son partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Voici donc la quatrième bénédiction des 12 bénédictions qui sont citées en Deutéronome chapitre 28, qui sont le thème donc de notre année. Amen. Effectivement, en lisant attentivement chacune des bénédictions, vous voyez qu'elles sont différentes. Quelquefois, lorsqu'on les a lues, on a l'impression qu'en fait Dieu citait des choses comme ça, mais on voit que chacune des bénédictions qui est citée est différente de l'autre et elles font ressortir des notions différentes que nous avons étudiées depuis le début de cette année. Et le verset 6, donc, qui est notre texte de base, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il y a deux grandes notions qui ressortent de ce passage, quand vous le lisez. Alléluia. Il y a deux grandes notions. Ça fait nous sortir une notion de temps. le moment de l'arrivée, le moment du départ. Mais ça faut aussi penser à une histoire de voyage, de trajet, de parcours, pour dire, quand tu vas entreprendre un déplacement, je vais te bénir au début de ton voyage et je vais te bénir aussi à la fin de ton voyage. Alléluia. Mais la porte même en général, lorsqu'elle s'ouvre dans votre vie, elle signifie simplement que ce que tu vas commencer est béni et tu vas avoir la faveur de Dieu jusqu'à la fin, lorsque cette œuvre-là va s'achever. La vie même que tu as sur la terre est un voyage. Alléluia. La vie que tu as est un voyage. Il y a l'arrivée, tu as ton arrivée sur la terre et tu as ton départ de la terre. Toutes ces choses-là seront bénies. Alléluia. Donc il y a ces deux notions-là. Et si le temps nous le permet, de toute façon aujourd'hui on ne pourra pas tout étudier. Nous sommes dans une série d'enseignements. Donc nous allons étudier donc ces deux parties, c'est-à-dire la notion du temps. Amen. Le temps de la faveur, le temps de la bénédiction, et puis cette notion de voyage, cette notion de déplacement que nous allons étudier. Aujourd'hui, nous allons plus nous lier à la notion du temps. Donc, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Je vais faire ressortir dans la notion du temps quelque chose de commencement. Ça veut dire à ton arrivée, quand tu arrives dans un endroit, quand tu vas commencer quelque chose, amen, quand tu arrives pour entreprendre une activité, déjà tu as la faveur de Dieu. Amen. Et tu sens que ce que tu vas commencer est béni. Et il dit, tu seras béni à ton départ. C'est-à-dire, non seulement le projet que tu as commencé, tu vas l'achever. Et tu vas l'achever dans la joie. Dans la joie, tu seras béni à la fin. Et je vous ai dit en introduisant cet enseignement-là, déjà le dimanche, je vous ai dit, beaucoup de gens commencent des projets et découvrent la faveur de Dieu lorsqu'ils les commencent. Mais ils ont des problèmes pour pouvoir finir cela, pour pouvoir les terminer. L'apôtre Paul pouvait dire, par exemple, dans le livre de Galates, au chapitre 3, du verset 3 à 4, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alléluia. Donc Paul se plaint de ces personnes-là. Dieu les avait visités au début, ils ont reçu le Saint-Esprit pour commencer l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens commencent le ministère rempli du Saint-Esprit, mais ne finissent pas. C'est pourquoi, donc même dans la notion du temps, nous allons parler de commencement et nous allons parler de la fin. Être béni à ton arrivée, être béni à ton départ. Tu peux commencer une œuvre de Dieu. Tu peux commencer par l'Esprit de Dieu, mais finir dans la chair. On a l'exemple de beaucoup d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu. En l'occurrence, Saül. Amen. Quand vous voyez l'histoire de Saül, vous voyez un homme qui a été béni au commencement. Dieu l'a choisi de manière miraculeuse. La faveur de Dieu était sur lui. Mais cet homme-là a mal fini. Il n'a pas fini avec Dieu. Beaucoup d'hommes, effectivement, commencent, mais n'arrivent pas à terminer. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, ils commencent par l'Esprit. Ils commencent avec l'Esprit de Dieu, mais ils finissent par la chair. Telle est la mise en garde que l'apôtre Paul était en train de faire ici aux Galates. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas vraiment de la finition, de la fin d'une œuvre. Je pourrais juste aborder ce soir la notion du commencement. Alléluia. La notion du commencement. Comment commencer avec la faveur de Dieu? Comment être béni au commencement d'une œuvre? Comment attirer la faveur de Dieu à votre commencement? Comment déclencher la main de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre? Alléluia. Il y a 5 choses que vous devez retenir aujourd'hui. J'ai déjà fait un enseignement là-dessus sur ce que j'appelais les 5 questions de la destinée. Lorsque vous allez devoir commencer une œuvre avec Dieu, nous allons étudier la parole de Dieu tout à l'heure, nous allons voir les détails. Il y a 5 questions dont vous avez, pour lesquelles vous avez besoin d'avoir une réponse de Dieu. Amen. 5 grandes questions qu'il faut poser à Dieu. 5 grandes questions pour poser à Dieu dans quel cadre? Dans le cadre de tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous voulez commencer une société? Ne vous précipitez pas. Amen. Vous voulez commencer un projet? Vous voulez commencer une activité? Il y a 5 questions. Dis à ton voisin 5 questions. Alléluia. Il y a 5 questions. Nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons étudier des cas. Vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas posé les 5 questions à Dieu, qui ont commencé des jeux, qui ont reçu seulement 2 ou 3 réponses. Et parce qu'ils n'ont pas posé toutes les questions, ils ont commencé leur œuvre avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, parce qu'il y avait 5 questions auxquelles ils devaient répondre. Dans les 5 questions à répondre, il y a bien sûr la 5e question, la toute dernière question qui nous interpelle plus par rapport à notre enseignement du jour. C'est la notion du quand commencer. Amen. Alléluia. Mais n'empêche que les autres sont liés. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Il est dit là dans ce passage, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, vous m'avez entendu parler. Je saute, je vais au verset 7. Il a dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Ce passage est le contexte dans lequel Jésus-Christ fait partie des dernières paroles que Christ a données à ses disciples, avant donc de leur confier la grande mission qui fut l'évangélisation du monde, aller dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Jésus ne va pas les envoyer précipitamment. Il ne va pas simplement leur dire allez faire de toutes les nations des disciples. Il va leur donner certaines conditions, alléluia, dans lesquelles ils devaient partir. S'ils voulaient avoir la faveur de Dieu pour commencer le ministère, ils devaient attendre la manifestation de certaines choses qu'on retrouve dans ce passage. Premièrement, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? C'est la première question de la destinée que je vais détailler tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? En ce passage, on voit que Dieu voulait que les disciples puissent annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Ça, c'est le qu'est-ce que. Amen. Mais le Seigneur ne s'arrête pas au qu'est-ce que. Il dit, relisons le verset. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas se loin de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres nous lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Notez bien les temps et les moments que le Père a fixés. Juste pour dire que le Père fixe des temps. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus voulait qu'ils aillent témoigner du Seigneur. Deuxième question, comment devait-il évangéliser? Le Seigneur n'a pas répondu peut-être à tout le détail, mais le travail ne devait pas se faire dans le désordre. Il y avait une stratégie. La stratégie, Dieu a donné une stratégie. Il devait d'abord chercher l'Éternel, prier, attendre un moment donné, recevoir le Saint-Esprit qui détermine le temps. Et puis dans la procédure de prédication, il devait aller de lieu en lieu. Commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie. Ce n'était pas dans le désordre que cela devait se faire. Amen. Alors donc dans les propos de Jésus, voilà la cinq questions que nous arrivons à faire ressortir. Et nous lirons encore d'autres passages qui confirment cela. La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? La deuxième question, notez rapidement les cinq questions. Comment veut-il que je le fasse? Ce que Dieu attend de toi, comment Dieu veut que... La troisième question, avec qui dois-je le faire? La quatrième question, où dois-je le faire? Ou bien où dois-je commencer? Et la cinquième question, quand dois-je commencer? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment Dieu veut que j'atteigne ce qu'il attend de moi là? Alléluia. Comment Dieu veut que je l'atteigne? Avec qui Dieu veut que j'atteigne cet objectif? Je disais souvent, beaucoup de personnes ont reçu la voix de Dieu, ils ont entendu Dieu leur parler. Il leur dit, voilà mon enfant, je te bénis aujourd'hui, tu vas commencer un commerce de pain. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Après avoir eu cette réponse, il dit, pasteur, Dieu m'a parlé hier en songe, j'ai vu l'Éternel me révéler que je serai béni dans le commerce de pain. Et la personne se lève, sans consulter encore l'Éternel, lui poser les autres questions, elle va, elle dit, bon, il faut que je parte en Inde, chercher, elle s'enseigne à ses amis du quartier, où on trouve les bons pains. Et puis ses amis lui donnent des conseils. Tu sais, il y a un ami qui vend le pain, il va parler avec elle. Oui, ma soeur, tu vas en Inde, il y a une usine là-bas, tiens, voilà l'adresse. Tu vas, quand tu vas aller voir la dame là, on va te donner du pain. Tu viens, le bénéfice que tu auras là-dessus là. Quand tu vas venir, même les donner là-même, c'est moi-même, je les connais. C'est mon oncle même qui est le directeur général. Tu vois, et puis, déjà, tu as déjà l'enthousiasme. Quand les gens commencent à te donner le conseil de. Par rapport au commerce de pain que tu attendais, tu sautes déjà de joie. Gloire à Jésus de Nazareth. Vraiment, l'Éternel m'ouvre les portes. Ma soeur est venue même chez moi pour me dire, elle m'a donné une adresse en Inde ou en Chine, etc., etc. J'irai là-bas. Tu prends ton argent. L'Éternel t'a parlé, il t'a dit, fais un commerce de pain. Et le reste là, toi seul, tu agis et tu supposes que c'est la voix de Dieu. Tu prends ton argent, tu payes ton billet d'avion. Tu vas là-bas, effectivement, tu rencontres les personnes. Et tu arrives. Tu arrives à prendre le pain. Même, quelquefois, même quand tu vas vouloir prendre le pain là, là-bas, tu dis, mais sur des escrocs. Le temps que les gens t'aient bien escroqué, tu arrives à revenir avec quelques pains. L'argent que tu avais prévu, ton voyage commence à être difficile. Tu vois, il y a un commencement qui n'est pas béni déjà. Tu dis, mais c'est pas grave. La Bible dit, il faut persévérer. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu persévères, tu arrives à la douane. Ton pain arrive dans le conteneur. D'abord même, par rapport au temps que tu as prévu, le bateau où tu as mis tes pains et le bateau dans la mer, arrivé là-bas. Tu dis, mais je connais la faveur de Dieu. L'Éternel m'a dit qu'il me bénirait dans le pain. et ça arrive au port. Arrivé au port, les gens te créent tous les problèmes. Tu dis, bon, en temps, tu avais déjà vu l'oncle de la sœur. Là, l'André, on te parlait de quelqu'un. Hein? Alléluia. On va raconter ton histoire. C'est pas inspiration, je parle. L'oncle de la sœur qui devait t'aider à dédonner cette affaire, mais l'affaire est carabinée. Hein, j'ai une sœur que j'ai aidée une fois à faire venir une voiture. J'étais parti en Allemagne, on a payé des voitures, on a fait venir des voitures. On voulait faire. On avait fait. Genre, on est en crise, quoi, parce que la donne est trop compliquée. On a voulu faire un arrangement douanier. Amen. Bon, moi, je n'ai pas suivi cette histoire. Mais elle a eu après tous les problèmes. Parce qu'à un moment donné, elle a raté la voix de Dieu. Elle a fait un arrangement technique pour réduire ses dépenses financières. Écoutez-moi très bien. Donc là, tu vas arriver et ce que tu vas dépenser dans la douane là, ça sera tellement énorme pour pouvoir faire sortir ton pain. Quand tu arrives, tu peux même plus vendre. Parce que tu vas, les prix auxquels tu vas faire, et tu es triste, tu es abattu. Tout ton argent tombe à l'eau, tu es découragé. Et tu dis, bon, moi, à partir de maintenant, je sens d'activité. Dieu m'a jamais dit de. Je ne sais même pas. Je pensais que tu m'avais dit, je suis arrivé voir le pasteur, il a prophétisé sur moi. Il dit, va ma fille, tu seras bénie dans le nom de Dieu dans les pages. Tu vois, ton erreur, c'était de demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu ne lui as pas demandé comment il veut que tu entreprennes ton commerce de pagne. Dis avec moi, comment? Comment? Chaque fois qu'Israël devait aller en guerre, chaque fois que David devait aller en guerre, il posait toujours cette question à Dieu, mais comment? On va faire la bataille, comment? Il y a beaucoup de manières de faire le commerce du pain. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Le projet dont il t'a parlé, il a un plan. Le projet dans lequel il a dit va te bénir, il a un plan. Il te dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Alléluia. C'est facile de recevoir le qu'est-ce que. Mais il faut quand même, il y en a même qui ne reçoivent même pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Ils réfléchissent, ils regardent les opportunités financières de l'instant du vent. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui marche? Amen. Je pense qu'au niveau du qu'est-ce que nous l'avons étudié en parlant de ce que Dieu veut sortir de toi. Amen, tes entrailles. Le fruit des entrailles, le produit de ta vie. On a beaucoup étudié avec cela. Mais ils ne se posent pas la question qu'il faut. Il y en a qui ne demandent pas le qu'est-ce que. Et je me souviens de ce passage en Actes chapitre 9, verset 6. Où il est question de, juste pour corroborer un peu la notion du qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je veux quand même vous donner le verset. Actes chapitre 9, verset 6. Il est dit, il est parlé de la visitation que Dieu a accordée à l'apôtre Paul. Je commence par le verset 3. Il dit, comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba sur la terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Ça dit, Dieu visite l'apôtre Paul. Mais c'est pas parce que Dieu t'a visité, il est tombé sous l'onction. Mais il faut qu'il pose une question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Vous ne pouvez pas être là, tomber. Vous savez, Jésus a dit beaucoup de choses, mais il n'a pas dit à Paul dans ce verset, qu'est-ce qu'il attendait que Paul fasse? Paul est tombé sous l'onction, la puissance de Dieu. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu? Des gens vont s'arrêter sur une visitation de Dieu pour commencer un ministère. Parce que l'onction est tombée sur eux dans un endroit où on dit que Dieu est avec moi déjà. Car Jésus-Christ de Nazareth m'a visité. Et dès cet instant, tout ce que je vais toucher sera béni. Non. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. L'onction de Dieu que vous rencontrez dans un programme de prière, quand vous rencontrez, lorsque vous venez à l'église, n'est pas suffisante pour commencer toutes sortes de choses. Vous devez poser la question comme l'apôtre Paul a posé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que Jésus disait beaucoup de choses, mais il n'a pas dit à Paul ce qu'il attendait de lui. Donc Paul lui a posé la question. Vous pensez que ça allait venir naturellement? Ce n'est pas venu naturellement, il faut poser la question. Alléluia. De manière logique, on aurait dit, bon, Paul n'avait pas besoin de demander. Comme Jésus sait pourquoi il est venu le visiter, il allait carrément attendre. Il dit, parle. Jésus allait s'arrêter, il dit, pourquoi tu me persécutes? Paul allait se lever pour partir. Il dit, j'ai vu le Seigneur, il m'a dit, pourquoi je le persécute? Mais peut-être qu'il allait se convertir, mais vous voyez ça. Il n'allait pas bien commencer son ministère. Pour commencer le ministère, amen, il faut, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Pourquoi tu m'as choisi? Est-ce que tu as déjà posé la question à Dieu pour ta vie? Ou bien tu cours derrière les premiers projets qui te viennent à l'esprit? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et puis Jésus même avait l'habitude de poser la question même aux gens. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui était malade, en l'occurrence les Bartimée et autres, et tout, dès qu'ils arrivent, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une question qu'il faut toujours poser, frère. Jésus même demande aux gens pendant que leur besoin est évident. Pourquoi je parle de ces cinq questions? Parce que beaucoup de gens ne croient pas que c'est évident qu'il faut les poser. Il faut les poser. Quand Dieu vous visite, il faut lui parler. Et puis après, il faut lui poser la question du comment. Rappelez-vous quand Dieu a visité Marie. L'ange est venu visiter Marie, il dit, voilà, femme, tu es bénie, tu vas avoir un enfant, tu es bénie, tout ça. Sous la puissance de l'onction, Marie dit, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Et puis c'est là que Dieu lui a expliqué. Il faut toujours demander à Dieu comment. Tu dis que, d'abord il faut lui demander qu'est-ce que. Quand tu as fini de recevoir ta réponse du qu'est-ce que, il dit, maintenant je veux que tu fasses un commerce de ceci. Je vais te bénir dans tel domaine. Ne commence pas. Ne commence pas encore. Dis, comment tu veux que j'entreprenne? Comment tu veux que je fasse les affaires? Comment tu veux que je travaille? Quelle est l'attitude tu veux que j'adopte? Alléluia. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Mais il y a beaucoup de manières de sauver l'humanité. Il y avait un comment. Il y avait un comment dans son mode de travail. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas le comment, vous ne serez pas béni au commencement. Vous ne serez pas béni au début. Vous devez rester devant Dieu jusqu'à ce qu'il vous dise comment. Alléluia. Alléluia. Quand Marie a posé la question, comment veut-il que comment Dieu veut que je le fasse? Dieu va vous donner la stratégie. Alléluia. Vraiment, depuis que j'ai compris ces choses, je vous assure, frère, la majorité des projets que j'ai commencé avec l'Éternel ont été bénis. Avant, je ne comprenais pas. Même quand il s'agit d'aller évangéliser, je sais que Dieu me dit, tu vas l'évangéliser à la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je m'assois, je dis, mais comment tu veux que je le fasse? Et c'est l'Éternel qui, chaque campagne, détermine la stratégie que nous allons utiliser pour gagner les âmes. Parce qu'il y a beaucoup de méthodes. On parle là-bas et puis dissiper des traités. On parle là-bas et puis il y a trop de méthodes possibles. Mais il faut que Dieu te donne la méthode que lui va agréer. Alléluia. Pas ta propre méthode. Pas tes propres stratégies. Parce que là, c'est comme si tu te déconnectes de Dieu. Et que l'Éternel n'est plus au contrôle. Et que l'Éternel ne gère plus ce que tu es en train de faire. Amen. Et tu vas voir que ce que tu es en train d'entreprendre va échouer. Et le danger, c'est que ça va tellement te décourager que tu vas croire que le qu'est-ce que là n'était pas de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas penser que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. Or, c'était Dieu qui t'avait parlé. Seulement toi, tu ne sais pas qu'il y a cinq questions à poser à Dieu. Tu as posé seulement une seule. Amen. Il y en a même qui n'ont pas posé une seule. Mais il faut poser une seule. Ceux qui ont posé une seule, posez la deuxième. Amen. La troisième question, c'est avec qui dois-je le faire? Avec qui? Dieu te donne ton projet. Il te dit, voilà ce que tu vas faire. Il te montre la stratégie. Il dit, bon, pour monter cette entreprise, pour monter ton projet, mon enfant, voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu dois prier pour savoir avec qui. Beaucoup de gens ont eu la stratégie, ils ont eu la réponse de Dieu. Voilà ce que j'attends de toi. Tu vas monter une entreprise de vente. Je reviens toujours à mon histoire de vente de pain. Vente de pain. Et tu prendras ton pain au Japon. Tu as dit, mais le Japon, là, le pain coûte cher là-bas. Bon, c'est pas si on fait le pain au Japon. Mais tu dis, le Japon, le pain coûte cher. Il dit, je dis, Japon. Quand il a parlé, tu vois, c'est là que tu seras béni. Amen. Il te montre le comment. Bon, il y a un peu le lieu là-dedans aussi. Alléluia. Donc tu vas. Et maintenant, après, tu arrives, tu commences à ouvrir ton magasin. Quand tu commences à faire la prière du avec qui, premièrement, quand tu pries, tu vas voir que parce que dans la même prière du avec qui, il y a les personnes qui doivent intervenir dans ta bénédiction. Amen. Tu vas prier. Tu vas pas te précipiter pour dire, j'arrive à la douane. Tu connais, tu as une relation avec mon frère là-bas. On fait jamais ça. La relation que tu vas prendre va t'emmener dans un trou. Tu dois prier. Tu dis, Seigneur, tu m'as béni dans cette œuvre. Envoie-moi les gens que tu as mis sur le chemin de ma bénédiction. Donne-moi de les rencontrer. Et puis tu pries, tu dis, Seigneur, éloigne de moi le méchant. Là, dans ton entreprise, là, les méchants vont disparaître. Les méchants ne seront pas sur ton chemin. Si tu n'as pas les bonnes personnes, ton projet va s'arrêter. Et tu vas croire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu dis, mais c'est même moi les bonnes personnes. Quand tu vas finir de faire cette prière, même si ton ami vient te proposer des personnes qui peuvent t'aider, dans ton cœur, tu vas avoir le sentiment que tu ne dois pas suivre le chemin. Parce que tu as sincèrement prié. Même s'il te montre une voie de facilité, tu dis non. Oh, ton projet, on connaît, regarde. Non, mais je suis l'ami. Le décideur, là, c'est mon frère. Allons le voir. Tu vas le rencontrer, tu dis, mais oui, t'es ça, ton projet, là, c'est facile, mon ami. Bon, laisse-moi ton dossier. Je règle ça demain. parce que tu as raté lui avec qui. À partir de là, ton dossier va s'empêtrer dans des histoires bizarres. Ça va sortir ici, ça va partir là, mais tu seras tellement embrouillé. Tu vas te demander, mais est-ce que Dieu m'a parlé? Tu as dit non, c'est le combat spirituel. Tu vas combattre, chasser les démons. Mais tu n'as pas les bonnes personnes. Tu n'as pas rencontré les personnes qu'il fallait. Il y a toujours des gens, et souvent ce sont les personnes que vous allez négliger, mais qui sont la clé de votre bénédiction. Il y a des personnes que vous devez rencontrer. Vous ne les connaissez pas. Il faut demander à Dieu. Ne vous précipitez jamais. Dis, Seigneur, envoie les personnes qu'il faut sur mon chemin. Un jour, des brigands étaient venus dévaliser le camp de David. Ils ont tout détruit et ils ont emporté avec eux les femmes et les enfants. David était arrivé. Ses soldats voulaient même le lapider. Il a interrogé l'Éternel. L'Éternel dit, va. Il dit, Seigneur. Et puis, c'est pourquoi j'aime beaucoup le roi David. David posait toujours les questions à Dieu. Il dit, Seigneur, irai-je? Il demande à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Dieu dit oui. Mais comment quelqu'un dont la femme a été prise demande à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? Mais ça, là, naturellement, tu t'élèves, tu prends d'abord ton cheval. Et c'est sur la route, tu sais, de dire, Seigneur, permets à ce que je les vois. Il n'y a même pas. Mais David, quelle que soit la pression, il prenait le temps de demander toujours à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Même si la réaction paraissait évidente. Un jour, David était à Tislag. Les gens sont venus attaquer la ville. Parce que Saül avait appris que David était là-bas. Quand Saül arrivait, David a posé la question à Dieu. Est-ce que je dois partir? Mais c'est évident que s'il restait, Saül allait le tuer. Mais comment, quelque chose qui est évident, tu demandes à Dieu, est-ce que je dois fuir? Dieu lui dit oui. Il dit, est-ce que les gens vont me livrer? Il posait beaucoup de questions à Dieu. N'ayez pas peur, Dieu n'est pas fâché. Posez-lui des questions. C'est votre papa. Alléluia. C'est votre père. Quand vous avez prié de connaître le comment, demandez-lui, Seigneur, amène les gens. Mets les gens qu'il me faut sur le chemin. Et dans l'histoire de David, c'est des Amalécites, je crois. Quand David allait les poursuivre, quand il a fini de faire la prière, il est parti. Et ces gens-là, ils ont abandonné en chemin un serviteur qu'ils croyaient mourant. C'était lui avec qui dont David avait besoin. Il rencontre ce monsieur et puis il le traite bien. C'est lui qui leur dit où ils sont. Vous comprenez? C'était pas quelqu'un de spécial. Mais quand vous avez la faveur de Dieu, quand Dieu vous bénit dans la bénédiction du commencement, il y a des gens providentiels, des gens que Dieu envoie, que vous sous-estimez, qui sont la porte, la clé de votre bénédiction. Ça peut être même le tout petit employé, mais c'est lui qui a la bénédiction. Toi, tu penses qu'il faut aller voir le DG, mais le DG va t'embrouiller. Tu as des dossiers où les gens doivent te payer. Dis, Seigneur, comment mon dossier là, on doit faire pour que ça marche? Tu penses que parce que tu connais les gens? Mais c'est quand même tu allais déposer ton dossier, où on te doit là? Le type même où tu allais déposer, c'est là que tu vas voir que le diable existe. Parce que ce monsieur n'a pas reçu l'onction de Dieu pour t'ouvrir la porte de ta faveur. Et dès qu'il prendra le dossier, le diable va venir le posséder. Parce que toi, tu es un fils de Dieu. Le diable va toujours l'embrouiller, même s'il est de bonne foi, pour ne pas que toi, il règle ton problème. Chaque fois qu'il va vouloir s'occuper, il va tomber malade, il va avoir des difficultés. Et tu as dit, mais le diable attaque trop. Mais tu sais, ce monsieur-là, il n'a pas reçu l'onction pour ton dossier. Sachez que vous êtes les fils du roi et que nous sommes en guerre. Vous comprenez, non? Donc, dans une guerre, le roi doit déterminer les stratégies. Et Dieu voit tout. Dieu voit tout. Vous savez, toutes ces questions-là nous sont posées pour que dans chaque étape de notre ministère, nous sentons tellement dépendants de Dieu parce que tu comprends que ni ta sagesse, ton intelligence, ton intelligence ne peut pas t'aider à réussir. Mais tu as besoin constamment de Dieu. Et c'est cette humilité-là qui fait que Dieu agit constamment dans ta vie. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc le avec qui est très important, frère. Il faut poser la question à Dieu. Il faut poser la question à Dieu pour les gens. Il faut demander à Dieu de mettre les gens en votre faveur. Il faut demander à Dieu d'aplanir votre sentier. Et quand vous partez déposer un dossier, quand vous partez travailler, ayez confiance que Dieu va les mettre sur votre chemin. Parce que vous avez prié. Vous allez arriver, celui même que vous partiez voir, votre premier contact, vous allez voir que ce jour-là n'est pas venu au bureau. Parce que ce n'était pas lui votre contact. Et puis pendant que vous êtes assis au bureau, tu dis non. J'attends, j'avais rendez-vous avec un monsieur, j'attends. Il y a une personne qui vient, il dit, mais pourquoi tu attends? Il dit non. J'avais rendez-vous, il devait m'aider de mon dossier. Il dit, mais c'est quel dossier? Attends, j'ai fait ça. Et puis, il prend ton dossier. Tu vois, l'Éternel, c'est ça, Dieu te bénit au commencement. Tu vois, l'Éternel dispose les gens en ta faveur. L'Éternel les amène vers toi. Celui qui allait mettre ton dossier en retard, que tu croyais qu'était la porte, Dieu va l'empêcher d'arriver ce jour-là au boulot. Dieu va le rendre malade. Ou bien quand il va venir, en tout cas, quelque chose va se passer. Mais il sera en retard pour qu'une autre personne qui est choisie par Dieu, que toi tu ne connaissais pas, prenne ton dossier et t'amène au succès. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important que vous priez pour avoir le avec qui. Ne néglige jamais cet aspect-là. Seigneur, mets-moi les gens sur le chemin. Éloigne de moi le méchant. Éloigne de moi ceux qui vont faire retarder mon projet. Éloigne ceux qui vont me mettre en retard sur le chemin de ma destinée. Quand vous allez partir demander vos offres d'emploi, j'ai l'honneur. Priez pour la personne que vous allez rencontrer là-bas. Celui qui va prendre vos dossiers. Éloignez les méchants. Tous ceux qui toucheront vos dossiers, priez pour eux. C'est très important de connaître avec qui. Même si Dieu vous dit c'est le temps où votre affaire sera bénie, priez. Parce qu'il faut toujours poser toutes les questions à Dieu. Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Même Jésus-Christ lui-même. Et puis le deuxième aspect avec qui, quand vous allez monter, pour monter une structure, vous allez travailler, les employés avec lesquels vous allez travailler. Priez Dieu pour qu'il envoie les bons employés. Un enfant de Dieu, ne vous arrêtez pas dans la facilité de j'ai besoin de quelqu'un de compétent. Nous sommes en guerre spirituelle. Vos entreprises, vos projets sont visés par l'ennemi. Parce que bloquer vos projets, c'est bloquer l'évolution de l'œuvre de Dieu. Parce que quand toi tu es béni, l'église est bénie par tes offrandes. L'église est bénie par ta dîme. Les âmes sont encore gagnées. Des villages sont atteints par la parole. Est-ce que vous suivez? Parce que tu apportes. Donc, bloquer tes affaires, c'est freiner le travail de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne pense pas que le plus important, c'est que le pasteur reste dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que pour que le pasteur atteigne la vision, là, même si le pasteur reste dans la volonté de Dieu, mais si les disciples, l'église, chacun rate sa destinée, mais toute l'église a des problèmes. Ce n'est pas seulement le pasteur qui crée des problèmes aux gens. Les gens qui étaient loin de Dieu pour financer les campagnes d'évaluation n'arrivent plus à intervenir. Le pasteur a la vision, mais il n'y a pas les gens. Tout le monde est bloqué. Et puis le travail évolue lentement, évolue lentement, évolue lentement pendant qu'il devait être béni. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ allait choisir les apôtres, si vous lisez bien l'histoire de la parole de Dieu, il les a d'abord appelés, mais il les avait appelés simplement disciples. Le jour où il allait prendre les apôtres, Jésus a pris le temps de prier. Dans Luc chapitre 6, versets 12 à 16, il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière. Dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Même pour choisir les disciples, Jésus n'a pas pris les gens qui paraissaient les plus zélés. Mais il a pris ceux que le Seigneur avait choisis. Et comme la dernière devait avoir un traître, il a choisi le traître aussi. Il savait ça. Vous suivez? Comment dirais-je? Luc chapitre 10, verset 2 dit ceci. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Considérez une chose que je veux que vous compreniez. Tous vos projets, votre vision, le réussite de votre vie, fait partie du plan de Dieu. C'est pour Dieu que vous faites. La Bible dit que tous ceux qui vivent savent qu'ils sachent qu'ils vivent pour Dieu. La Bible déclare que tout a été créé par Jésus et puis pour Jésus. Il n'y a rien qui est fait pour toi, mon frère. Il faut t'oublier un peu. Amen. Dieu, là, il a fait ça pour lui. Ce n'est pas pour ta gloire. Ce n'est pas pour que tu fasses le malin dans la vie d'Abidjan. C'est pour Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ta société là, c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Parce que c'est pour sa gloire. Tu ne peux pas la gérer comme bon te semble. Tu ne peux pas la gérer comme ça te plaît. Quand vous lisez le contexte de Luc chapitre 10, les disciples étaient là, il y avait du monde. Et Jésus s'est plaint, dit, oh comment allons-nous leur parler? Et puis il dit, la moisson est grande. La Bible dit que Jésus était ému de compassion parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là qui avaient besoin de berger. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Ce qu'il devait dire directement à la suite, c'est aller chercher les ouvriers. Voyez ceux qui sont intéressés à travailler. Hein, s'il y en a qui vous paraissent zélés, remarquez-les bien. S'il y en a qui vous paraissent intéressants, amenez-les. Non. Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc lui-même, il fait remarquer que la moisson est grande. Mais il t'a jamais dit d'aller les chercher. Alléluia. Il t'a jamais dit d'aller les chercher. L'œuvre que tu es en train de faire, c'est pour la moisson de Dieu. Alléluia. Ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. La moisson est grande. Ton travail est grand. L'œuvre que tu fais pour la gloire de Dieu, ça fait partie de la moisson. Il y a peu d'ouvriers. Mais il ne faut pas aller les chercher. Prie le maître de la moisson pour que lui-même il envoie des ouvriers dans sa moisson. Beaucoup de vos projets ne vont pas jusqu'à la fin. Parce que des gens avec qui vous travaillez dans votre entreprise ne doivent pas travailler avec vous. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Et ils mettent votre âme en retard pour rien, même s'ils sont gentils de cœur. Ne vous trompez pas, c'est vrai qu'à l'église on a besoin, on va embaucher les frères, tout ça là. Mais je dis, ça va parce que tu as de la place. Tu vas venir t'arrêter à l'église pour dire, frère pasteur, j'ai un poste hein, dans ma boîte là. Est-ce qu'il n'y a pas un frère qui est capable? C'est une erreur fatale. Alléluia. Tu dois prendre le temps. Je n'ai pas dit de ne pas faire travailler les frères. C'est une bonne idée. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai envie de vous expliquer. Je dis, ce n'est pas parce que tu as une position tu peux embaucher des gens que tu ne prendras pas le temps de prier avant d'aller proposer. C'est Dieu qui va te dire comment est-ce qu'il a envie de choisir les ouvriers dans sa moisson. C'est sa moisson. Alléluia. Ce n'est pas ta moisson. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson à lui. L'œuvre que tu fais, c'est sa moisson. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour ta propre gloire. Il faut retenir cela. Amen. Si c'est pour ta propre gloire, ça va s'éteindre. Mais c'est pour que son règne avance. C'est pour que son nom soit glorifié. Ton activité doit être bénie. Pour que ta famille puisse sortir du trou, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Pour que tu puisses faire de bonnes œuvres, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Mais c'est sa moisson. C'est pas, tu as regardé, tu dis non, celui-là, ah, j'ai besoin d'un expert en finance. Tu dis voilà un frère, c'est un expert financier. Est-ce que Dieu l'a appelé? Amen. Il faut prendre le temps de prier, prier, Père, suscite les ouvriers dans la moisson. Et puis, Dieu va vous donner à cœur une méthode. Il va dire, bon, va lancer l'annonce à l'église. Mais il va dire, regarde à ta famille. Donc, c'est pas une affaire, il dit que vous avez commencé quelque chose, donc vous allez prendre vos frères du village. On dit, moi, au village, moi, je cherche les gens. Tu vas dire au village par pitié. Je vous ai dit, il n'y a pas une affaire. Le royaume de Dieu, là, c'est pas la pitié. C'est pas la pitié, frère. Vous allez arriver, nous, on dit, c'est mon frère. On dit, voilà, toi, tu es notre frère. Hein, tu ouvres ta truc, tu nous prends pas. Je vous ai bien dit la dernière fois, quand vous êtes dans un trou, tu ne peux pas rester dans le trou et puis faire sortir les gens. Dieu t'a choisi pour aider ta famille. Mais tu dois sortir pour les aider. Et pour sortir, il faut que tu écoutes Dieu. C'est pourquoi nos entreprises ne vont pas loin. Il faut faire une boutique et puis s'arrête. Non. Peut-être qu'il fallait en avoir plusieurs. Alléluia. Donc prie l'Éternel pour choisir. Père, tu pries, Père. Amène les gens qu'il faut. Maintenant, la moisson est grande. Je vais commencer. Oh, il y en a qui ont eu autre. Je vais ouvrir un pressing. Seigneur, qui doit travailler dans mon pressing? Père, étends ta main. Dieu t'a dit, fais un pressing. Un. Comment je dois le faire? Deux. Tu as reçu la stratégie. Maintenant, Seigneur, envoie les personnes. Envoie les gens. Je t'assure, quand tu as fait la prière, les gens arrivent vers toi. Si tu ne connais pas trop la voix de Dieu, même si tu as fait l'erreur de vouloir prendre un frère, si Dieu ne veut pas qu'il soit là-dedans, tu joues le lendemain, il ne pourra pas travailler. Pourtant, au début, il était zélé. Il dit, j'arrive. Et quand il arrive, il tombe malade. Et puis, ça tourne. Parce que tu as prié. Tu as dit, Seigneur, envoie les ouvriers dans ta moisson. Et que Dieu ne l'ait pas choisi, il ne pourra pas rentrer dans ta boîte. Mais quand tu n'as pas fait la prière, ils vont rentrer. Parce que tu vas choisir ta chassesse. Il y en a qui ont vraiment un bon discernement. Quand ils prient, Dieu leur montre carrément les gens. Mais toi, tu peux ne pas avoir ça. Tu vois, quand tu n'as pas ce discernement-là, dis Seigneur, éloigne de moi ceux qui ne sont pas de sa boîte. Et puis, mets-moi la joie. Donne-moi de la conviction de travailler avec la personne. Prie ainsi. Tu vas voir que quand quelqu'un va arriver, même si c'est ton ami, si tu n'as pas la paix, tu ne travailles pas. C'est pareil aussi pour toutes les entreprises que vous voulez faire avec les collaborateurs. Vous avez de l'argent, vous voulez monter une société, n'allez pas prendre n'importe qui pour être actionnaire pour dire oui, ce monsieur a l'argent, n'a qu'à venir investir, on va travailler. C'est un piège. Ton œuvre n'est pas ton œuvre. Ce que tu fais est l'œuvre de Dieu. Ne collabore pas avec n'importe qui. Tu risques de te mettre en retard et rater ta vision et te prendre des retards de longues années pour rien du tout. Parce que c'est pour moi que tu as choisi les mauvaises personnes. Tu pries le Seigneur. Et quand tu demandes à Dieu, même si quelqu'un vient t'apporter des milliards pour financer le travail que tu dois faire, tu n'auras pas la paix du cœur. Parce que tu as fait cette prière avec qui? Et plus tu vas, et comme tu as fait la prière, plus tu vas avancer dans le dossier, plus tu deviens triste. Et tu commences à sentir qu'en dehors, Dieu n'est pas dedans. Et puis tu commences à prendre du recul. Alléluia. Mais si tu connais bien la voix, si tu as appris à reconnaître la voix de Dieu, tu vas voir que l'Éternel peut t'aider. Tu vas sentir, Dieu te dit non. Mais en son, il va te dire que ce n'est pas la peine. Mais quand tu pries, tu t'attends une réponse de Dieu. Amen. Tu dis, papa, moi, je ne connais pas ta voix. Mais si tu n'es pas dedans, montre-le-moi clairement. Parce que c'est ta moisson. Ne permets pas, Seigneur, que j'embauche quelqu'un, que je travaille avec une personne, que je m'associe avec quelqu'un que toi, tu n'as pas choisi. Parce que ce que je fais, c'est ton œuvre. Si quelqu'un n'est pas ton associé dans cette affaire, qu'il ne rentre pas. Même s'il me propose des milliards, permets à ce qu'il n'arrive pas. Et quand tu as fait cette prière sincèrement, même si tu t'es un peu laissé séduire à cause de ce qu'il te propose, tu vas voir que Dieu va tout garder. Parce que tu as pris de tout ton cœur avec humilité, reconnaissant que tu n'es pas très fort pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Parce que tu es humble comme ça, tu vas voir que Dieu va arranger toute chose et tu ne feras pas de grosses gaffes. Alléluia. Où dois-je le faire? Jésus a dit à ses disciples, vous allez partir pour Jésus, mais commencez par Jérusalem. Il y a toujours un lieu. On a beaucoup étudié la bénédiction relative au lieu dans la première porte des bénédictions. Amen. Il y a toujours un lieu. Il y a toujours un endroit dans la stratégie. Dis, mais où dois-je commencer? Amen. Soit vous allez recevoir ça clairement d'une révélation, soit ce sera flou. Mais chaque fois que vous allez arriver dans l'endroit qui n'est pas le choix de Dieu, vous allez voir que quelque chose va vous empêcher de vous établir. parce que vous avez pris de tout votre cœur sincèrement, avec humilité. Dieu va le faire pour vous. Amen. Je me souviens, pendant qu'on était en train de chercher l'endroit où on allait faire le siège, on avait beaucoup de propositions de maison, beaucoup d'endroits. Et puis, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, en ce moment-là, je n'entends pas bien ta voix. Donc, et notre, parce qu'on avait une pression, l'ancien siège où on était, le prud'homme demandait de partir. Donc, sous la pression, on pouvait faire vraiment une erreur. On avait de l'argent pour prendre un local, mais il fallait être dans le local que Dieu avait choisi. Alors, j'ai prié. Et chaque fois qu'on s'apprête à signer, ça s'en va. Mais je savais que c'était la main de Dieu. Donc, je n'étais pas inquiet. Et je savais que même si la date de notre départ approchait, mais Dieu était au contrôle. Et que ce n'est pas à cause de la pression du temps que j'allais faire une bêtise. Il fallait que je reste serein. N'oubliez pas que c'est ce qui a fait disqualifier le roi Saül. Amen. Le peuple partait. Samuel tardait à venir. Il s'est levé lui-même, il a fait le sacrifice. Prenez le temps de prier. Même si vous ne sentez pas qu'il reste 2 ou 3 jours, ce n'est pas grave. Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Amen. Et donc vous allez. Et quand on a prié. Le démarcheur qui nous a trouvé un lieu, il est venu, je crois que c'est le pasteur Yves, il est venu en première position. Lui-même, d'abord, quand il a trouvé le lieu, il m'a appelé. Parce que tous les endroits qu'on avait visités, c'était lui. Bon, lui, il veut son argent, hein. Bon, il veut son argent, donc j'ai dit non, quelque chose se passe, c'est pas l'endroit. On a vu de belles maisons, de belles villes avec des cours énormes, piscines à l'intérieur, tout ça. Mais c'était pas l'endroit. Et quand il est arrivé ici, lui, quand il a vu ce lieu, il m'a appelé, il m'a dit littéralement, il dit, j'ai trouvé votre siège. Il n'avait pas dit, viens voir, il dit, j'ai trouvé. Quand il a appelé Pasteur Yves est venu voir l'endroit. Il dit, c'est ici, c'est, tout le monde a trouvé. J'ai pris ma femme, quand elle est arrivée, elle a vu l'endroit. Elle dit, mais c'est là le siège. Alléluia. C'est-à-dire, on a ressenti cette paix-là. Bon, Dieu peut vous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais sachez qu'il y a toujours un lieu. N'est-ce pas? Si vous allez par exemple ouvrir des magasins, ne vous précipitez pas. Dis, Seigneur, montre-moi l'endroit où tu veux que je me positionne pour faire ton commerce. Parce que c'est pour toi. C'est ça que tu connais l'endroit stratégique où tu vas attirer les clients que tu veux. Et puis vous priez. Les gens vont faire des propositions de magasins. Si vous ne sentez pas, non. Même si c'est abordable pour vous. Même si dans votre stratégie financière, cet endroit où vous allez vous positionner là, vous sied. Alléluia. Mais vous ne sentez pas. Quand vous rentrez dans le magasin, vous priez, vous rentrez là-dedans. Tu n'es pas tranquille. Et parce que tu as fait la prière, même si tu t'apprêtes à signer le contrat le lendemain, la nuit, Dieu va te montrer un songe. En tout cas, Dieu va t'arrêter. Le jour même où tu t'apprêtes à aller signer le contrat, la dame ou le monsieur qui veut faire signer le contrat, quelque chose lui arrive. Bon, pas, j'espère que c'est rien de grave. En tout cas, il ne peut pas arriver à toi. Il t'appelle, il t'explique, il dit, vraiment, je me déplaçais, mon pneu s'est crevé. En tout cas, bien, mon enfant était malade, on l'envoie à l'hôpital. Il voulait, il y a un embouteillage, tu ne peux pas signer le dossier, tu vois. Ça, là, ce sont des choses, quand vous avez prié la prière du où. Quand vous avez fait cette prière-là, Dieu va vous empêcher de signer un faux contrat. Amen. Il va vous parler clairement, il va vous bloquer pour ne pas que vous fassiez une erreur grave. Amen. Alléluia. Ah, si tu as compris, acclame le Seigneur. Amen. Jésus est venu sauver l'humanité. Mais il a commencé en Israël. Il a commencé en Israël. Il a commencé par les Juifs. Il y avait une stratégie. Ce n'était pas aller partout à tout moment. Dieu a sa stratégie, qui n'est pas la nôtre. Quelquefois, quand on voit l'attitude de Jésus, moi, je dis souvent, même à sa résurrection, là, je crois que Jésus-Christ n'est pas. Bon, il est bien ressuscité, mais avant dans ma sagesse humaine, je n'ai jamais compris. C'est récemment que Dieu m'a fait comprendre pourquoi à sa résurrection, il n'a apparu seulement qu'aux apôtres. Mais pendant des années, je ne comprenais pas la logique de Jésus. Alléluia. Je comprenais, mais Jésus, tu as annoncé à toute la population que toi, tu vas mourir, tu vas ressusciter. Maintenant, tu ressuscites et puis tu ne te promènes pas dans Jérusalem. Donc, quand Jésus est ressuscité, là, c'est seulement les apôtres qui l'ont vu. C'est-à-dire ses disciples. Donc, quand les gens viennent, ils prêchent, ils disent, Christ est ressuscité. On dit, mais où il est? On dit, il est monté au ciel. Les gars disent, mais c'est trop facile, les gars. Avant qu'il prêche à Jérusalem, on le voyait. Il s'arrêtait, il parlait, il dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le rebâtir. Jésus a fait tout ça. Maintenant, il est mort. Il a annoncé. Le Sanhédrin même, les pharisiens en l'accusant, ont dit, tu as dit que tu vas ressusciter, on va voir. Jésus meurt. Il ressuscite. Et puis il n'apparaît pas à ces gens. Normalement, tous les bons stratèges en marketing, nous tous réunis, on allait donner on dit Jésus, tu sais. Les hommes sont influencés par ce qu'ils voient. Et si tu veux que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant, que les gens se convertissent, il faut que maintenant ils te voient ressusciter. Ce que tu as fait pour Thomas là, c'est très important stratégiquement. Parce que tu sais, Jésus, quand nous irons dire que tu es ressuscité, il faut une preuve. Et la preuve, voilà, on te voit. Et si les gens disent que ce n'est pas toi, tu montes tes mains percées. Je t'assure que Jésus-Christ, c'est très influent pour faire avancer le royaume de Dieu. On aurait dit ça à Jésus, non? On lui aurait dit ça, frère. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait choisi. Vous comprenez? C'est pourquoi le comment, vous ne pouvez pas le gérer. Ce n'est pas logique. Alléluia. C'est pas, tu ne vas pas prendre avec vous un chemin qui est cohérent. Mais c'est le chemin là qui glorifie son nom. Alléluia. Donc, ne vous fiez pas à votre sagesse. Ne vous fiez pas à votre intelligence. Mais confiez-vous en l'Éternel en toutes choses. Appuyez-vous sur lui en toutes choses. Et sachez que même si vous avez la sagesse pour entreprendre quelque chose, dis Seigneur, je te confie ma démarche. Sois avec moi. Si je me trompe, arrête-moi. Et quand je suis avec toi, ouvre mon chemin. Sois-moi favorable. Mais si je me suis trompé, arrête-moi. Parce que je suis faible. Je suis un enfant. Je ne sais pas comment marcher. Dieu aime les prières des humbles. Mais quand vous montrez à Dieu que vous connaissez, vous dites, bon, tu m'as donné le début, laisse-moi terminer. Ah, tu dis, ah, j'ai déjà vu la route. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Oui, ouais, j'ai compris, Seigneur. Eh, c'est bon maintenant, j'ai vu l'affaire. Maintenant, on va gérer le reste. Alléluia. Donc, Dieu a sa stratégie. Et l'œuvre que vous faites fait partie du plan de Dieu. Permettez à l'intelligence que Dieu vous a donnée de pouvoir se manifester dans sa sagesse. Permettez au talent que Dieu a déposé en vous, qui est un talent peut-être de commerce, d'entrepreneuriat, de créativité, en tout cas, je ne sais pas, peu importe, mais sachez que la manifestation de votre ministère contribue à faire avancer le règne de Dieu. Alléluia. Mais vous pouvez manifester de la même manière qu'un pasteur ne peut pas se lever et puis bâtir avec sa propre sagesse. S'il écoute la voix de Dieu, comprenez que l'œuvre sur laquelle vous êtes établi, vous êtes comme pasteur là-dessus. L'entreprise, la société dans laquelle vous travaillez, là même où vous êtes employé, vous êtes des serviteurs de Dieu. Dans votre domaine. C'est pourquoi de la même manière que ces questions-là sont valables pour tout homme de Dieu, de cette même manière, c'est valable aussi pour vous. Alléluia. Vous êtes appelé à être chantre. Dieu va vous dire, vous allez sortir des cassettes. Demandez à Dieu. Dieu dit, j'étais point pour être chantre. J'étais point. Demande-lui comment il veut que tu chantes. Il y a beaucoup de manières de chanter. Tu peux être dans le groupe musical, tu peux faire sortir des cassettes. Il y a beaucoup de façons de faire. Il faut connaître le comment. Tu n'as pas télé, on dit, tu es appelé à chanter, tu es appelé à chanter. Hein, non, tu vas voir les gens. Parce que je vais rentrer dans les chantres. On te teste. Effectivement, tu as une voix qu'il faut. Mais tu n'étais pas fait pour être dans le groupe de louanges de l'église. Dieu voulait que tu te consacres dans l'adoration. Il y a un comment qui est différent pour toi. Il voulait que tu sois dans l'adoration quelque part. Et puis après, peut-être, il allait faire des CD, des cassettes. Il allait te donner une inspiration pour écrire des chants qui allaient être une bénédiction pour la ville. Mais toi, tu as perdu du temps. Parce que dès qu'on t'a dit que tu appelais être chante, pour toi, il faut absolument que tu rentres dans le groupe de louanges et tu t'es mis en retard sur le chemin que tu as dessiné. Pour rien. Amen. Alléluia. Donc, le où est très, très, très important. Le dernier élément, quand dois-je commencer? Il y a un temps. Je termine avec ça aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand Dieu a fini de vous parler, de répondre aux quatre premières questions, ne commencez pas sans le P. Sinon, ce n'est pas valable. On sait que Manchester doit jouer contre Chelsea. Mais si l'arbitre n'est pas sifflé pour le commencement, la P, là, tout le ballon que vous allez démontrer avant, là, ce n'est pas valable. Alléluia. Il y a un P de Dieu. Le commencement. Dieu, la Bible dit, mais on va lire pas ça. La Bible dit, il y a un temps fixé. Dieu fixe un temps. On vous a tous expliqué, on dit, oui, tu seras prophète, tu vas commencer. Le temps n'est pas arrivé. Tu sors maintenant dans la vie. Et si pas. Mais ce n'était pas le temps. Les gens ne sont pas bénis dans le commencement de leurs œuvres parce qu'ils ratent les cinq questions de la bénédiction. Ils ne prennent pas le temps de prier pour ça. Alléluia. Jésus avait commencé son ministère. Jésus a fait 33 ans de ministère. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il y a eu un P. Pourquoi à 20 ans il n'a pas commencé à prêcher? Dites-moi. Est-ce qu'à 20 ans, pendant que Christ avait 20 ans, ou même 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui mouraient en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas des malades qui avaient besoin de guérison? Est-ce qu'il n'y a pas des malades qui mouraient pour aller en enfer? Mais ce n'était pas le temps. Il devait voir des gens qui ont des problèmes. Mais ce n'était pas le temps. Il avait l'onction pour les guérir. Mais ce n'était pas le temps. En toi se trouve la solution de Dieu pour un problème donné. Mais cela doit se manifester à un temps précis. N'oublie pas une chose, tu es fils de Dieu. De même que Christ est fils de Dieu. Et ce qui était valable pour Christ, la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce qui est valable pour lui est valable pour nous. Jésus est venu sauver l'humanité. Mais quand il avait 15 ans, il y avait des gens qui avaient des problèmes. Son premier miracle, c'était de transformer l'eau en vin. Mais et avant? Ça veut dire qu'il n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri aucune personne. Il n'a aidé aucune personne particulièrement. Parce que ce n'était pas le temps. Alléluia.
Alléluia.
Ce n'était pas le temps. Le temps de Dieu. Le temps pour commencer. Il faut prier pour connaître le temps. Et le temps, c'est très particulier parce que c'est ce que nous allons développer. On va voir qu'il y a un temps fixé. La Bible dit dans le livre d'Ecclésias chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Même pour pleurer, il y a un temps. La Bible dit il y a un temps même pour pleurer. Donc si un événement te fait pleurer, mais ce n'est pas le temps de pleurer, tu n'as pas pleuré. Alléluia. Pour rire, il y a un temps. Si quelque chose fait rire, mais tu n'as pas le temps de rire, là, la vous riez, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps de rire? Ok, on va lire Ecclésias 3, 1. On va voir que il y a un temps fixé.